Check this out.
Goûtez au scandale avec les parfums Jean-Paul Gaultier et laissez-vous emporter dans les coulisses des plus grandes affaires People. Que le scandale commence.
Madame Figaro.
L'histoire a tous les ingrédients d'un scénario hollywoodien. Un athlète de haut niveau, riche et beau, abat sa petite amie, une jeune mannequin blonde aux yeux bleus, en lui tirant 4 balles dessus le jour de la Saint-Valentin. Mais ce n'est pas du cinéma. C'est la véritable histoire d'Oscar Pistorius, champion paralympique sud-africain, et de sa compagne Riva Steenkamp, tuée à 29 ans. Dans cette mini-série consacrée aux grandes affaires qui ont secoué le monde du sport, la journaliste Camille Maestrachi revient sur cette sombre histoire de meurtre. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Et que devient aujourd'hui Oscar Pistorius, 10 ans après les faits? Je suis Marion Galli-Ramouneau, bienvenue dans Scandale.
A terrific program for Tanya Harding.
Did O.J. Simpson commit murder?
Coupable d'homicide involontaire.
She was a teenage champion and then her life took a dramatic turn.
Please welcome the extraordinary Simone Biles.
Oh, isn't that great?
This guy put a knife in my back.
Left-handed hook shot.
He was beating you and abusing you.
Oscar Pistorius has been arrested for allegedly killing his girlfriend.
All I can say is the athletes did not look happy.
Oscar Pistorius has been arrested for allegedly killing his girlfriend.
South African police have charged Oscar Pistorius with murder.
Inculpé du meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp, top modèle de 30 ans, a été retrouvé sans vie.
Shoot his girlfriend 4 times in the early hours of Valentine's Day.
Le célèbre athlète Oscar Pistorius est en prison, inculpé du meurtre de sa petite amie.
Le 14 février 2013, le monde entier est sous le choc en apprenant la mort de Riva Steenkamp, tuée par Oscar Pistorius. Vous avez peut-être en tête l'image de cet homme au regard triste, cheveux courts, rasé impeccablement, qui entre ou sort du tribunal au milieu d'un nuage de photographes. Moi, c'est le souvenir que j'ai de cette affaire. Je le revois, la tête baissée, qui essaie de se frayer un chemin au milieu des journalistes. Pour l'athlète, c'est le début de la descente aux enfers. Personne ne pouvait s'attendre à cette issue invraisemblable pour celui qui était devenu un véritable héros national. John Carlin s'en souvient très bien. Ce journaliste anglais, auteur du livre Oscar Pistorius, le héros déchu de l'Afrique du Sud, a vécu de nombreuses années dans ce pays en tant que correspondant.
I know for a fact that he was an absolute hero.
C'était un héros absolu pour tous les Sud-Africains, de toutes races, religions et bords politiques confondus. C'était en fait le plus grand héros d'Afrique du Sud, après Nelson Mandela.
Pour comprendre comment cet athlète paralympique amputé des deux jambes est devenu l'un des hommes les plus aimés et respectés d'Afrique du Sud, il faut remonter quelques années en arrière. Nous sommes en 1986, dans une banlieue plutôt cossue de Johannesburg, Sheila Pistorius, femme au foyer, et Henke Pistorius, homme d'affaires afrikaner, accueillent leur deuxième fils, Oscar. Mais leur bébé naît avec une maladie congénitale. Il n'a pas de péroné. Le péroné, c'est cet os qui va du genou à la cheville, juste derrière le tibia. À 11 mois, il est donc amputé des deux jambes, et à 17 mois, il fait ses premiers pas avec des prothèses. Malgré tout, Oscar Pistorius ne se considère pas comme un handicapé. C'est ce qu'il a toujours répété, comme ici dans une interview au Tonight Show avec Jay Leno.
Quel âge aviez-vous lorsque vous avez eu votre première prothèse? Vous aviez quel âge?
J'avais 13 mois.
13 mois?
Ouais, j'ai commencé à marcher à 17 mois environ. J'ai grandi dans une famille très détendue à ce sujet. Ma mère me disait le matin, Oscar, tu mets tes prothèses de jambes, en même temps qu'elle disait à mon frère, Carl, tu mets tes chaussures. Je déteste en entendre parler, il n'y a aucun handicap dans notre famille.
C'est génial.
Oscar Pistorius est très proche de sa mère. D'ailleurs, elle joue un rôle crucial dans l'impulsion de sa carrière. Comme le souligne Laurent Louette, journaliste au Figaro, ancien rédacteur en chef du service des sports.
Dans la carrière sportive d'Oscar Pistorius, le personnage central est sa mère, Sheila.
une maman qui va le pousser très tôt vers la compétition sportive, alors même que Oscar Pistorius n'est encore qu'un enfant. Elle voit dans la compétition, dans le sport, une façon pour son fils de se réaliser. Il va commencer par jouer au rugby, et puis il aura à l'âge de 12 ans un problème, un accident sur les terrains de rugby qui vont conduire sa maman à le rediriger vers les pistes d'athlétisme, où là, très tôt, ses capacités physiques vont pouvoir se révéler, s'exprimer en dépit de son handicap. À l'âge de 42 ans, Sheena Pistorius s'éteint atteinte d'un cancer, et Oscar Pistorius, adolescent, va se faire tatouer sur son bras droit la date de naissance et la date de décès de sa maman pour ne jamais oublier le destin qu'elle a imaginé pour lui.
Sheila ne s'est pas trompée. Son fils prodige devient rapidement un grand champion d'athlétisme et une véritable star internationale. John Carlin.
L'histoire d'Oscar Pistorius est juste inimaginable. C'est l'histoire typique de l'athlète persévérant, mais multiplié par 100. Imaginez, alors que ce bébé a 11 mois, on lui coupe les jambes, non seulement il va devenir le plus grand athlète paralympique de sa génération, mais en réalité, il va aussi aux Jeux Olympiques concourir avec des hommes valides, sans handicap, qui sont les plus rapides du monde, et il va aussi être très compétitif. Il gagne le premier tour, il arrive en demi-finale. Je veux dire, cette histoire a quelque chose de la mythologie grecque ou quelque chose de ce genre. Cela ne semble pas vraiment réel. Si c'était de la fiction, on vous dirait « mais n'importe quoi, on n'y croit pas ».
À même pas 18 ans, Oscar Pistorius participe aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, puis à ceux de Pékin en 2008. Il remporte au total 4 médailles d'or aux 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Mais il en veut plus. Équipé de ses deux lames en carbone à la place des jambes, il pense qu'il peut rivaliser avec les athlètes les plus rapides du monde et se met au défi de concourir avec les valides.
En 2011, il devient le premier Sud-Africain non valide à intégrer l'équipe d'athlétisme pour les championnats du monde qui vont se dérouler en Corée du Sud, à Daegu. Et là, Pistorius parvient à se qualifier, à participer avec l'équipe sud-africaine du relais 4x400 mètres à la finale de ces championnats du monde. Cet homme avec ces drôles de prothèses en forme de lame, se révèle au monde. Il est très vite surnommé, évidemment, Blade Runner. Et dans la foulée de ces championnats du monde, Pistorius va déclarer viser les Jeux Olympiques de Londres en 2012 pour tenter de décrocher une médaille dans l'univers des valides pour écrire l'histoire du sport.
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n'est pas tout à fait le premier sportif handicapé à concourir aux JO. On peut citer par exemple Marla Runyan, malvoyante, qui a participé aux 1500 mètres aux JO de Sydney en 2000, ou encore Natalia Partica, pongiste polonaise, amputée d'un avant-bras, qui a concouru aux JO de Pékin et de Londres. Mais leurs participations n'ont pas fait débat. Alors que pour Pistorius, une grande polémique se met à enfler. Est-ce que ces lames lui donnent un avantage? Est-ce que tout ça est vraiment équitable? Le tribunal arbitral du sport finit par trancher. Il n'y a pas de preuves suffisantes de ce que les lames favorisent la performance. À 21 ans, Pistorius entre dans l'histoire en courant avec des athlètes sans handicap au JO de Londres.
Oscar Pistorius is the Paralympic champion of 2012 in London.
Oscar Pistorius participe effectivement aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques la même année. Ses performances vont être un petit peu en deçà de ce qu'il espérait. Il ne parvient pas à décrocher la médaille olympique dont il rêvait. Toutefois, aux Jeux Paralympiques, son niveau est tel que dans des stades pleins, et devant un public tout acquis à sa cause, il termine avec 2 médailles d'or sur le 400 mètres et sur le relais 4x100 mètres au sein de l'équipe sud-africaine.
«
ce drame en Afrique du Sud, Oscar Pistorius, le champion qui court sur des lames de carbone, passe de la rubrique sport à celle des faits divers. Il a tué sa compagne de plusieurs coups de feu à son domicile et vient d'être inculpé de meurtre.
Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, l'impensable se produit. Oscar Pistorius tire sur sa compagne Riva Steenkamp. Ce jour-là, Riva passait la nuit chez son amoureux, comme cela arrivait souvent depuis le début de leur relation. Une relation toute récente d'ailleurs, puisqu'il l'avait officialisée seulement 4 mois auparavant. Riva Steenkamp avait 29 ans. Elle était diplômée en droit et s'était d'abord fait connaître en tant que mannequin avant d'animer des émissions de mode à la télé. Ironie du sort, elle était aussi engagée dans le combat contre les violences faites aux femmes. Sa mère raconte que le jour de sa mort, elle devait intervenir dans une école à ce sujet. Alors que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Selon la version de Pistorius, il aurait entendu des bruits venant de la salle de bain. Pensant se faire attaquer, il saisit son 9 mm caché sous son lit et se précipite vers les toilettes. Derrière la porte, il y a sa petite amie, Riva. La maison est plongée dans le noir, il tire à 4 reprises dans sa direction. C'est quand il ouvre la porte que, toujours selon lui, il comprend son erreur. Mais c'est déjà trop tard. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là de sa vie, Oscar Pistorius est au summum de sa carrière. C'est l'un des sportifs les plus connus de la planète, ex aequo avec d'autres géants comme Michael Phelps ou Usain Bolt. Il signe des contrats publicitaires à gogo, on voit sa tête partout, dans des pubs ou sur des tapis rouges. Et du jour au lendemain, tout s'écroule. Non seulement c'est la fin de sa carrière, mais c'est aussi le début d'un long feuilleton judiciaire, retransmis en direct à la télévision, un peu comme au procès d'O.J. Simpson, 20 ans auparavant.
Madame la juge, comme je l'ai dit, je n'avais pas l'intention de tirer sur qui que ce soit. J'ai tiré avec mon arme sans réfléchir, avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait. J'étais inquiet de ce qui aurait pu arriver à Riva.
Comme devant une émission de télé-réalité, le monde entier va suivre les audiences et les différents témoignages, dont celui d'Oscar Pistorius que l'on vient d'écouter. On est en 2014, soit plus d'un an après les faits quand s'ouvre le procès. Jusque-là, Pistorius était un homme libre. Au moment du procès, il apparaît blême, fatigué, les yeux rougis, comme recroquevillé dans sa veste de costard sombre, la tête entre les mains. Il s'effondre plusieurs fois à la barre et manque de vomir sur le sol quand on lui présente des photos de la scène de crime. John Carlin est l'un des seuls journalistes à avoir pu lui parler pendant le procès.
Je suis face à face avec ce type dans le salon de son oncle Arnold. Et ma première impression était qu'il semblait tellement plus pâle et plus mince et tellement loin du grand athlète musclé. Et deuxièmement, j'ai été frappé par sa timidité. Il parlait avec cette petite voix très basse. Il m'a appelé « Monsieur Carlin ». Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Carlin. Il était juste un peu gêné, peut-être un peu embarrassé. Je ne sais pas quoi, mais il était recroquevillé. C'était un petit garçon et j'étais le grand homme lors de ce premier contact. Nous nous sommes assis dans le canapé, il a sorti un album photo et a commencé à me montrer toutes ses photos de lui et de Riva. Ils avaient l'air heureux. Un jeune couple amoureux, souriant. Là, on est à Table Mountain. Nous voici sur la plage. Ici, c'est nous encore. C'était comme si elle n'était pas morte, comme si elle était partie pour quelques jours ou quelque chose de ce genre. C'était très particulier. C'était ma première rencontre avec lui. J'étais avec lui pendant près de 3 heures. Je pense évidemment qu'il essayait de me faire passer le message qu'il n'aurait pas pu tuer Riva. Il l'aimait tellement. Je veux dire, évidemment, il y avait une forme de manipulation à ce moment-là. Mais d'autres personnes m'ont dit que chaque jour, il allumait une bougie pour Riva sous cette photo.
Du côté de la défense, le numéro de Pistorius ne passe pas. La mère de Riva, June Steenkamp, ne croit pas à sa version.
Il manque des pièces au puzzle. Je ne suis pas convaincue du fait que tout cela soit un accident. Je pense que c'est plus compliqué, qu'il y a des choses que lui seul sait et que ma fille seule sait. Et ma fille n'est plus là.
Elle dit aussi que sa fille n'était pas heureuse avec le champion, qu'elle n'était même pas amoureuse de lui et qu'elle comptait le quitter. Pendant le procès, les échanges WhatsApp du couple sont épluchés publiquement. Parfois, j'ai peur de toi. Comment tu me parles et comment tu réagis ? Écrit notamment l'ancienne mannequin, qui se plaint auprès de Pistorius, je la cite, d'une relation déséquilibrée. En parallèle de ces révélations, des voisins de Pistorius sont appelés à la barre et témoignent avoir entendu ce soir-là ce qui ressemblait à une dispute. Des cris de terreur, dit l'un d'eux. Les cris d'une femme. Globalement, l'opinion publique n'est pas du côté de Pistorius. Des voix s'élèvent pour dénoncer un énième féminicide dans un pays où la violence contre les femmes bat des records. Selon la presse sud-africaine, en 2019, au moins 3 femmes meurent chaque jour sous les coups de leur mari. C'est quasiment 10 fois plus qu'en France.
Le fait que cela arrive le jour de la Saint-Valentin donne à ce qui devient un fait divers une dimension un peu particulière. On sent bien qu'au fil de la journée apparaît des faisceaux de ce qu'on appelle encore à l'époque un crime passionnel. Je pense que le monde a eu du mal à se faire à l'idée qu'Oscar Pistorius, idole, icône sportive handicapée, puisse être un meurtrier, puisse être dans une logique de donner la mort à sa petite amie dans le cadre d'un féminicide qui pourtant ensuite, au fil de l'enquête, au fil des procès, a été avéré. Et je pense que avec le recul, si le procès devait avoir lieu aujourd'hui, le regard sur Oscar Pistorius changerait. On verrait peut-être davantage l'homme plutôt que le champion invalide qui réalise des exploits parmi les meilleurs athlètes du monde.
Contre toute attente, la juge écarte la thèse du féminicide lors du premier procès. Faute de preuves suffisantes, le bénéfice du doute joue en faveur de Pistorius. La juge retient la qualification d'homicide involontaire. Selon elle, il n'a pas eu l'intention de tuer sa compagne.
Mr. Pistorius, please stand up.
Monsieur Pistorius, s'il vous plaît, levez-vous. Compte tenu de l'ensemble de ces preuves, dans cette affaire, la décision unanime de ce tribunal est la suivante. L'accusé est déclaré non coupable et libéré. Au lieu de cela, il est reconnu coupable d'homicide involontaire.
Au moment où Thokozile Masipa prononce ces mots, Oscar Pistorius ferme les yeux de soulagement. À cet instant, aux yeux de la loi, sa version est plausible. Il n'a pas assassiné Riva Steenkamp. C'était un accident, comme il n'a cessé de le répéter. Reste qu'il l'a tué et pour cela, il est condamné à 5 ans de prison. Mais alors, la question se pose. Pistorius bénéficie-t-il d'un délit de belle gueule ? C'est en tout cas ce que pense le procureur. Il considère la peine trop clémente au vu des éléments du dossier et fait appel une première fois, puis une deuxième. Au fur et à mesure, les décisions de justice se durcissent. Jusqu'à ce qu'en 2017, la toute dernière juridiction finisse par annuler les verdicts précédents et retenir le qualificatif de meurtre. La cour explique que Pistorius ne pouvait ignorer le risque de tuer en tirant à travers la porte d'un espace clos. Sur cette base, elle estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour homicide involontaire, mais bien pour meurtre. Oscar Pistorius écope de 13 ans de prison. Celui qui, hier, rassemblait les foules, divise désormais plus que jamais.
Il y avait l'autre camp qui était absolument convaincu qu'Oscar Pistorius l'avait délibérément tué par jalousie, et le camp qui disait « Non, le pauvre, c'était un accident tragique ». Et les gens se sont simplement divisés entre ces deux camps. Et les gens ont réagi à ce procès de la même manière qu'ils le font en politique. Vous choisissez votre clan. Vous, vous choisissez d'être avec Macron ou avec Trump ou peu importe. Et puis toutes les preuves qui arrivent, tout ce qui arrive, vous sélectionnez les preuves qui vont dans votre sens et vous rejetez et ignorez les preuves qui, d'une manière ou d'une autre, sont contre votre camp. D'une certaine manière, à travers cette histoire humaine puissante, vous obtenez une métaphore de ce qui se passe à l'échelle mondiale, en particulier dans le domaine politique, et de la manière dont tout cela a été exacerbé et intensifié par les médias.
Le 5 janvier 2024, soit plus de 10 ans après les faits, Oscar Pistorius, qui a déjà passé 9 ans derrière les barreaux, sort de prison. Il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Jusqu'à l'expiration de sa peine en 2029, Il n'a pas le droit de sortir pendant certaines heures de la journée. Il a interdiction de boire de l'alcool, interdiction de parler aux médias. Il vit désormais reclus dans la luxueuse villa de son oncle, Arnold Pistorius, où John Carlin l'avait rencontré à l'époque. Les podiums et les projecteurs ne sont plus qu'un lointain souvenir. Personne ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé dans sa tête cette fameuse nuit de la Saint-Valentin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a définitivement retiré sa cape de héros. Je suis Marion Galli-Ramouno et vous venez d'écouter le premier épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à quelques sombres affaires qui ont terni le monde du sport, écrite par Camille Maestrachi. Adèle Lécharny a apporté son aide à la production. À la prise de son, Erwan Jamet. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, vous abonner à Scandale si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on revient sur le fabuleux mais sombre destin de Simone Biles, la gymnaste multimédaillée qui a été abusée par son entraîneur lorsqu'elle était adolescente.
Goûtez au scandale avec les parfums Jean-Paul Gaultier et laissez-vous emporter dans les coulisses des plus grandes affaires people. Que le scandale commence.